touchants volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement, la terre.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi.
L'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement, la terre.
Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdescroissants@gmail.com. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la construction en terre crue, à la pâte à modeler. Le développement durable, c'est un retour en arrière, tout le monde le sait. Peut-être pour certains, en tout cas pas pour d'autres. Parfois, il est utile de redécouvrir des méthodes ancestrales qui ont traversé des siècles pour faire face à un contexte bien actuel. La terre crue, c'est le thème de notre émission de ce jour et en est un très bon exemple. Loin d'être dépassée, de nouvelles techniques permettent de la remettre en valeur, de créer de nouvelles esthétiques et de supprimer les climatisateurs, les humidificateurs, les déshumidificateurs. Et le tout sans devoir calciner du calcaire à 1500 degrés pour fabriquer du ciment et du béton, qui est économiquement non recyclable. Seuls 10% du béton en France est réellement recyclé. Néanmoins, en ce qui concerne la terre, aujourd'hui, il manque un cadre technico-réglementaire pour en faciliter l'utilisation dans les différents ouvrages. Pourtant, des architectes ont déjà fait le pas, sous l'impulsion de maîtres d'œuvre responsables. Vous avez envie d'utiliser ce matériau sans contrainte ? Vous pouvez enduire le mur d'une salle de bain, ce qui réglera un bon nombre de problèmes d'humidité. C'est facile et c'est beau. Un petit historique, commençons par de l'étymologie. Savez-vous que Adam signifie argile en hébreu ? La construction en terre crue est historiquement la plus répandue. Néanmoins, elle a quasiment disparu en Europe après 1945 et à l'arrivée à grande échelle de la construction en béton. Le regain d'intérêt pour la construction en terre crue ne se traduit pas par un retour en arrière, mais au contraire est source d'inspiration et d'innovation. On remet en valeur ses qualités, qui sont d'avoir un très bon bilan carbone, contrairement au ciment qui représente 5 à 6% des émissions mondiales de CO2. La terre est réutilisable et réparable à l'infini. C'est une matière première que l'on a en abondance, que l'on a quasiment partout et qui coûte pas cher. C'est un bon régulateur hygrothermique, c'est-à-dire qu'il va réguler la température et l'hygrométrie des pièces. Nous avons d'énormes préjugés sur la terre. Lorsqu'on l'on parle de construire en terre crue, l'imaginaire collectif nous amène aujourd'hui à penser que c'est une méthode de construction ancienne, dépassée, ancestrale, anecdotique, dans notre histoire, qui rappelle la pauvreté. Alors, quels sont quelques préjugés ? Ce ne serait pas durable ? Les murs d'enceinte de l'Alhambra ont été construits en pisé et remontent au XIVe siècle. Ils sont toujours debout. Ce ne serait pas adapté à tous nos climats ? À l'abri d'un écoulement permanent, la terre crue ne craint ni la pluie ni la sécheresse. Ce ne serait pas solide ? La ville de Shibam, au Yémen, comporte des immeubles de 8 étages, soit de 30 mètres de haut, et ils sont en briques de terre crue. La mosquée Al-Moubar culmine à 53 mètres. Et bien plus proche de nous, le centre de Lyon est construit avec ses méthodes de terre crue. En termes géographiques, en France, on a deux très grosses zones de construction en terre. Le nord-ouest et une bande partant de Biarritz jusqu'à Lyon. Revenons-en à l'échelle mondiale. Plus d'un quart de la population mondiale vit dans un habitat en terre crue et de nombreux sites ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des travaux d'inventaire se font un peu partout dans le monde pour nous permettre de redécouvrir cette méthode ancestrale de construction. Alors la terre crue, c'est quoi en fait ? La terre crue, c'est un béton d'argile. Le terme béton est souvent allié au liant ciment de nos jours. Pourtant, elle s'applique à plein d'autres utilisations que le ciment. La terre crue, donc le béton d'argile, c'est un mélange d'argile, de sable, de gravier et d'eau. Et quelles sont les propriétés de ces constituants ? Alors l'argile, ce sont des cristaux qui sont plats. Si on mouille par exemple deux lames de verre et qu'on les colle l'une à l'autre, il devient très difficile de les séparer par traction. Les cristaux d'argile, mélangés à de l'eau, agissent d'eux-mêmes. Ils sont empilés les uns aux autres et l'eau va créer un effort de succion entre deux lamelles d'argile et il est quasiment impossible de les séparer. La structure de l'argile conserve un taux d'humidité qui est stable puisqu'entre chaque feuillet, on a de l'eau et il faudrait soulever chaque feuillet pour faire sortir cette eau. L'argile capte l'humidité et elle assèche l'atmosphère humide. Et en évaporant sa surface, l'argile se refroidit. C'est donc un excellent régulateur hydrique mais aussi thermique pour deux raisons. La première, c'est sa masse. Elle a une capacité thermique énorme mais également sur l'évapotranspiration, c'est-à-dire que quand de l'eau va s'évaporer, eh bien on va créer du froid. C'est d'ailleurs un phénomène qui est largement utilisé, d'ailleurs dans ce que l'on appelle le réfrigérateur du désert, qui est une masse d'argile poreuse sur laquelle on va verser de l'eau, qu'on expose en plein soleil, et par évapotranspiration, on crée du froid à l'intérieur, capable de stocker des produits alimentaires, mais aussi de la glace. Le béton de terre est également constitué de sable et de gravier. Ceux-ci servent à garder la structure. Faites une petite expérience. Vous mettez un bâton dans un vase et vous remplissez de gravier et de sable. Par friction, il sera impossible de bouger le bâton, que ce soit en compression ou en traction. Si vous faites la même expérience avec uniquement du sable, vous pourrez peut-être bouger le bâton. Si vous faites la même expérience avec uniquement du gravier, vous pourrez aussi bouger le bâton. En fait, vous ne pourrez pas bouger le bâton à partir du moment où vous avez un empilement de granulats de différentes tailles. La friction du sable est également plus forte quand il y a de l'eau. Prenons l'exemple d'un château de sable. Eh bien, essayez toujours de faire un château de sable avec du sable très sec. Vous n'y arriverez pas, il s'écroulera. Si vous mettez de l'eau, par contre, le château de sable tiendra tant que le sable restera humide. De plus, le mélange de sable et de gravier empêche l'argile de couler. De plus, ils assurent également une protection contre l'érosion du vent, de la pluie et autres. Dans un béton d'argile, eh bien, je vais mettre de l'eau. De par sa force de capillarité, elle assure la cohérence de l'argile. Très mouillé, cela permet d'avoir un béton liquide que l'on peut manier. Si on regarde au microscope électronique de l'argile, eh bien on va voir ces fameux feuillets entre lesquels vient s'intercaler le pont capillaire entre l'argile, mais aussi entre les grains de sable. Le pont capillaire qui permet de créer ces structures solides de l'argile. Le béton d'argile, qui est donc composé d'argile, de sable, de gravier et d'eau, est un matériau finalement extrêmement solide. Alors, dans notre terre, on peut ajouter des éléments pour améliorer certaines propriétés. Par exemple, de la paille pour avoir une meilleure isolation. Et on obtient ainsi une résistance thermique qui devient à peu près équivalente à celle du bois brut, tout en gardant une capacité thermique importante. On peut y mettre une structure bois pour améliorer les propriétés en traction, car si l'argile, on peut très fortement la compresser, quand on l'étire, eh bien, au bout d'un moment, elle finit par casser. On peut y ajouter des colorants, comme de l'oxyde de fer 3, qui donne la couleur rouge. Parce que la terre n'est pas forcément rouge, on peut trouver de la terre blanche. Tout dépend finalement de quoi est constituée notre argile, qui sont des minéraux qui ont été concassés en très fines particules. On peut avoir des argiles blanches par exemple. On peut ajouter dans notre béton de terre cru de la chaux ou du ciment pour pacifier le mur, c'est-à-dire pour accélérer sa mise en œuvre. Mais ce faisant, on diminue les propriétés d'hydrorégulation de notre mur. Pour résumer, l'utilisation de terre crue est quelque chose d'historiquement très utilisé, qui est très répandu, qui est très solide. Et je vous propose maintenant de continuer en musique avec
Dans l'antre du roi de la montagne d'Edouard Grieg. Thank you.
Écoutez les croissants décroissants. Aujourd'hui, nous parlons de la terre crue. Dans une première partie, on a vu qu'est-ce que c'était que de la terre crue. Maintenant, intéressons-nous à comment la mettre en œuvre. On l'a compris, il faut mélanger des éléments et ajouter de l'eau pour la rendre plus malléable. Ensuite, il faut que le matériau sèche. Il faut qu'il atteigne son humidité d'équilibre pour considérer comme fini. Cela peut prendre parfois un an, mais sous certaines conditions, on peut entre-temps y habiter. S'il faut procéder à une reprise de cette structure, il suffit de remouiller le matériau, de rendre malléable à nouveau et d'attendre à nouveau qu'il sèche. Contrairement bien sûr au ciment qui connaît un processus chimique qui est irréversible et qui est donc non réparable. Comme pour le béton, il est également possible de créer des éléments préfabriqués, mais dû à la faible résistance en traction, leur transport est fragile. Une fois mis en œuvre, il ne faut surtout pas recouvrir d'une couche imperméable notre mur en terre, ne serait-ce qu'avec de la peinture, au risque de tout voir s'abîmer puisque l'eau ne peut plus rentrer, sortir et l'eau fait partie des éléments structurels de notre béton de terre. Il existe plusieurs techniques de mise en œuvre de notre béton. Les plus connues sont le torchis, le pisé, la bauge, la daube et plus récemment le coulé. Le torchis, c'est la terre qui est appliquée sur une structure, souvent en bois. Le pisé, c'est de la terre qui est versée dans un coffrage, puis tassée. La bauge, c'est la terre qui est empilée par couches successives. La daube, c'est la terre qui est versée dans un moule et tassée en briques. Une méthode plus récente, c'est le coulé, qui est relativement nouvelle, avec une structure beaucoup plus fine. On peut même la décoffrer rapidement. La structure, par exemple en bois, qu'elle noie, vient retenir la terre avant son séchage complet. Parlons maintenant de la réglementation. L'utilisation de la terre crue n'entre pas dans le cadre technico-réglementaire. Seuls des cahiers de bonnes pratiques ont été élaborés à ce jour. Pour les ouvrages porteurs, il faut passer par un bureau d'études techniques qui, parfois, impose une double structure porteuse. Et l'assurabilité décennale est à négocier au cas par cas. C'est un comble pour une technique ancestrale qui a montré sa résistance sur des siècles. Mais gageons que les nouvelles bases de construction qui prennent en compte l'impact du cycle de vie sauront intégrer la terre crue comme il se doit. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les cahiers techniques du bâtiment ou consulter des MOOC qui sont régulièrement organisés.
Gratuit et 100% en ligne, le MOOC Construire en terre crue aujourd'hui vous permettra de mieux connaître le matériau, ses principes de fabrication et d'application, mais aussi la filière et ses acteurs.
Sur mooc-bâtiment-durable.fr.
Alors, l'utilisation de la terre a également un énorme avantage. C'est en quelque sorte inné, ou presque. de la terre sur ses mains, on en a depuis notre enfance. C'est malléable, on sait l'utiliser, on sait y ajouter les bons graviers pour construire un mur. D'autre part, c'est agréable au toucher. Nul besoin d'avoir des gants pour construire son mur en terre ou pour faire un enduit en terre. On peut également, comble du pire, jeter les restes. Tout en haut de son échafaudage, on a fait une réparation sur un mur, on a encore des pierres, de la terre, eh bien, il suffit de les jeter. On peut nettoyer les instruments sans se préoccuper de quoi que ce soit, sans se préoccuper de polluer son sol. Et, autre avantage, on peut s'arrêter de travailler puis reprendre plus tard. Il suffit juste de réhumidifier ce que l'on avait commencé. Alors, on a parlé beaucoup ici de la structure. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de reconstruire votre maison déjà en place. Alors, si on n'a rien à construire, on peut quand même utiliser les bienfaits de la terre en enduit. Notamment dans les salles de bain, par exemple, ou dans la maison, et utiliser la terre comme volant hygrométrique. Dans une salle de bain, on prend une douche, l'humidité de l'air augmente, va dans les parois, s'incruste entre les lamelles d'argile, puis est restituée tout au long de la journée. Cela permet ainsi de diminuer le besoin instantané de puissance pour ventiler notre salle de bain. Autre avantage de ces techniques, et notamment des enduits, c'est que c'est beau. Et, on en a déjà parlé, ça se répare en un rien de temps à l'infini. Il suffit juste de réhumidifier, prendre une éponge et de relisser la surface. La terre, c'est également un gage d'indépendance. On l'a vu récemment, il y a des fois des cataclysmes, tels des tremblements de terre ou des événements météorologiques extrêmes, comme en Libye. Ces derniers seront malheureusement de plus en plus nombreux. Ils peuvent détruire tout. L'avantage de la terre, c'est qu'on peut reconstruire très rapidement, car les matériaux sont sur place, contrairement au système qui est basé sur le ciment, parpaing ou autre, qu'il faut les fabriquer puis importer. On peut également reconstruire très rapidement parce qu'on sait le faire. Faut-il encore avoir maintenu ou redéveloppé les compétences ? On peut reconstruire très rapidement parce que ça ne coûte rien ou presque. On l'a vu au Maroc avec un tremblement de terre, on l'a vu en Libye avec des pluies diluviennes ces derniers mois. Les solutions en ciment n'ont pas particulièrement tenu et aujourd'hui, pour reconstruire cela, il faudrait réimporter des quantités énormes de matériaux, alors que la terre est sur place. Résumons donc tout ce que l'on a vu. La terre, c'est un matériau très abordable, très résistant, facilement utilisable par chacun d'entre nous, et c'est beau et c'est agréable à travailler et extrêmement agréable à vivre dans un intérieur en terre. Tout le contraire de l'image de modernité qu'on a pu nous apprendre ces dernières années. On veut du greenwashing. Rubrique greenwashing. Dans la rubrique greenwashing de cette semaine, je vais aborder l'huile pour parquet. Un parquet de planches d'arbres coupées sur la commune. Alors, il s'agirait de le huiler, de le protéger. Pour ce faire, on utilise traditionnellement des huiles. Alors, l'huile lambda achetée au commerce du coin, c'est de la pétrochimie, c'est-à-dire c'est du pétrole qui a été transformé en une espèce d'huile que l'on va mettre sur notre parquet en bois. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Alors, on va se pencher sur les étiquettes vertes avec écrit environnemental ou biosourcé. La plupart du temps, en regardant un petit peu plus près les fiches techniques, on voit que 80% des produits sont biosourcés, mais le reste, on ne sait pas trop. Sûrement des produits pétroliers. Et sur les étiquettes, on voit également des symboles qui indiquent qu'il y a des insecticides, des fongicides, et on retrouve des logos de tête de mort ou de poisson mort. Alors, on va utiliser de l'huile bio ? De nouveau, on se penche sur les étiquettes. C'est bio parce qu'il n'y a pas de pétrole, mais à l'intérieur, il y a de l'essence, des plastiques, qui sont produits à partir de plantes. Alors on continue à chercher et on trouve le Graal. Des huiles végétales sans aucun ajout particulier et des piments. Vu nos précédents déboires, eh bien on va appeler le fabricant. Et qu'est-ce que l'on apprend ? C'est que dans les piments, il y a du titane. Le titane étant un piment qui permet de créer de la couleur blanche. Sauf qu'il est cancérigène dans la plupart des situations qui sont des situations nanométriques du titane. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation où n'importe quel produit que l'on va acheter contient du pétrole, contient des essences fabriquées à partir de plantes, mais qui reste du pétrole ou du plastique, ou des produits cancérigènes? Eh bien, c'est parce qu'on nous a appris à aimer les bois clairs. Et pour obtenir un bois clair, il faut le clarifier. Il faut éviter les tanins, la raison pour laquelle on met des plastiques notamment, pour boucher les pores du bois et éviter que les tanins remontent. Et il faut également que ça sèche vite. C'est pour ça que l'on utilise certains cicatifs, qui vont permettre à l'huile de durcir en 6 heures au lieu de quelques jours. C'est donc en quelque sorte de notre faute, de nos attendus. Au final, peut-être que le mieux, c'est de mettre de l'huile de lin, qui est souvent produit sans traitement en France, y mélanger de l'argile pour l'effet fongicide, de la craie parce qu'à l'intérieur il y a du calcium et ça a un effet cicatif sur l'huile, c'est-à-dire qu'elle va durcir plus vite, et de l'huile essentielle pour repousser les insectes. Et on va y rajouter un petit peu plus de temps que quand on est pressé. Et au final, on obtient quoi ? Un bourrat couleur miel ou caramel. Et c'est beau, c'est soyeux, on veut le toucher, le manger, s'y allonger, et c'est moins cher.
N'écoutons pas les Khmer verts et les prédicateurs à lampe à huile.
Salut le monde, le Figaro.
Ouais. Salut l'équipe, salut le métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle. Ouais,
ouais. Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
C'était Les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour rappel, pour vos avis, commentaires, suggestions, n'hésitez pas à écrire à lescroissantsdescroissants@gmail.com. À la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre...